Seigneur, nous venons te recommander ce temps de l'écoute de ta parole. Nous prions pour que tu disposes nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi et étends ta main puissante, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi. Nous voulons t'entendre, Seigneur, et être transformés à l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Luc au chapitre 18. Luc, chapitre 18. Luc au chapitre 18, et notre exhortation de ce matin est inspirée principalement de l'histoire de l'homme riche, l'échange avec Jésus. Verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit : Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui répondit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit : Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. On peut s'arrêter là. Alors, un homme vient voir Jésus et lui pose cette question. Je pense que c'est la question existentielle que tout humain devrait se poser un jour. C'est la question, vous savez, Ecclésiaste 3:11 nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Un homme, j'allais dire normal, mais je pense qu'il est arrivé à tout humain de se poser la question sur l'éternité. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt? On a des expériences de vie ou de mort imminente où les gens racontent des histoires. Et à un moment donné, ça doit interpeller tout humain à se demander, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Même ceux qui ne croient pas, on le voit quelquefois, et quand ils parlent des gens qui sont décédés, ils disent, là où il est, là-haut. Mais vous voyez, bien aimé, la contradiction de l'homme, même ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a quand même une once de soupçon qu'il y ait quelque chose. Alors cet homme vient voir Jésus, il dit, maître, qu'est-ce que je dois faire de plus? Il faut l'entendre, puisqu'il fait déjà beaucoup de choses, il est correct, pour hériter de la vie éternelle. Jésus coupe un petit peu son enthousiasme, verset 19. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors, Jésus arrête cet homme. Vous savez, bien aimé, Jésus est Dieu. Jésus lit dans les cœurs des hommes. Jérémie 17, verset 10 nous dit, c'est Dieu qui parle, « Moi, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins des humains pour leur rendre selon leurs œuvres. » Cette particularité-là, il n'y a que Dieu qui peut le faire, voir dans le cœur de l'homme ce qu'il y a au fond de lui. Donc quand cet homme vient voir Jésus, ce n'est pas dit, mais on peut supposer que la discussion ne se limite pas juste à une simple conversation. Jésus va plus loin. Vous vous rappelez lorsque Nicodème vient voir Jésus pour lui dire, exact, effectivement, tu es de Dieu, puisque ce que tu fais, personne ne peut faire cela si Dieu est avec lui. Jésus dit à Nicodème, en vérité, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Vous savez, quand quelqu'un lit ça, sérieusement, on se dit, mais où est le rapport entre ce que Nicodème dit et ce que Jésus répond? Mais parce que Jésus a vu le cœur de Nicodème, il sait ce qu'il y a au fond. En réalité, quand Nicodème vient voir Jésus, la question, c'est la question de cet homme. Comment faire, puisque tu es réellement de Dieu, mais comment je peux faire? Mais vous savez, Nicodème était docteur d'Israël. Poser cette question à Jésus, déjà il vient de nuit, il se cache, mais poser cette question, ça voudrait dire, bah, finalement, moi qui suis docteur, je ne sais rien. Mais vous voyez, Jésus a répondu. Et là, cet homme vient voir Jésus pour lui dire, qu'est-ce que je dois faire? Bon maître, Jésus lui dit, pourquoi tu m'appelles bon? Un seul est bon, c'est Dieu seul. Et Jésus continue. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Verset 21, j'ai dit, l'homme répond, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 22, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Alors, en méditant ce passage, bien-aimé, cet homme est remarquable. Cet homme est pieux. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui fait ce qui est correct, qui est attaché à Dieu. Et non seulement cela, pas depuis une semaine ou un mois, depuis sa jeunesse. On ne sait pas quel âge il a. Mais Jésus reconnaît cela. Donc, à premier abord, tout paraît correct. Mais, bien aimé, lorsqu'on a affaire à Dieu, Dieu a un scanner que les humains ne voient pas. Vous savez, quand ça vous est peut-être arrivé, hein, moi ça m'est arrivé, tu fais une composition lors de l'examen, parfois tu as répondu, tu dis, en fait tu te relis, hein, tu dis, ah là, on ne peut pas faire plus que... on ne peut pas faire moins que 19 sur 20. Mais bien aimé, la réalité c'est quoi? C'est que c'est le prof qui va te corriger. Et le prof, il n'a pas le même regard que toi. Donc, là où tu penses avoir 20 sur 20, bah, le prof te rend la copie 14. Voilà. Et là, cet homme est correct. Mais Jésus lui dit, attention, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue ce que tu recevras aux pauvres, et ensuite suis-moi. La question c'est, est-ce que le fait qu'il soit riche est un problème? Non, puisque c'est Dieu qui lui a donné cette richesse. Mais où se situe le problème? C'est que cet homme, en venant à Jésus, c'est pas écrit, hein, mais moi je suppose qu'il connaît son point faible. Il a un point faible. Son point faible, c'est l'amour pour ses richesses qui entre en rivalité avec Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Vice caché ». Vous savez, un vice caché, quand vous achetez une maison par exemple, apparemment tout est nickel. Les murs sont droits, les canalisations, les tuyauteries, tout est parfait. Mais peut-être que celui qui te vend la maison, lui il sait qu'il y a un défaut structurel, il y a une fuite qui vient de quelque part, on ne sait pas quand il pleut. Mais vous savez, quand tu visites la maison l'été. Il fait beau. Donc toi, tu ne vois pas ce défaut-là, mais il existe. Combien ont acheté des voitures et se sont retrouvés en difficulté derrière, puisque la voiture avait ce qu'on appelle un vice caché, qui n'est pas visible. Vous savez, il y a des mécaniciens qui disent, hein, lorsque tu achètes une voiture, exige au vendeur de ne pas faire tourner le moteur, puisque quelquefois, celui qui est averti, quand il vient démarrer un véhicule à froid, il peut entendre le bruit. Parfois même, il y a des fumées qui... Alors, il y a des gens, parfois, il sait que tu arrives, vous êtes appelé, bah, il met la voiture à tourner depuis 20 minutes. Mais comme le moteur est chaud, à ce moment-là, toi, tu n'as pas le discernement pour voir. Et souvent, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que toi, tu arrives pour acheter le véhicule, il est déjà en route, vous allez faire un tour, tu roules 15 minutes, mais bien aimé, 15 minutes, en 15 minutes, qu'est-ce que tu vas déceler en 15 minutes? Sachant que tu dois reprendre la route pour remonter à 600 km. Tu fais ton petit rodage, tout est bien, tout est nickel. Mais en réalité, il y a peut-être un défaut. Et ça, peut-être le propriétaire le sait. Et quand vous faites le rodage, lui, sa crainte, c'est qu'il n'y ait pas de voyant, que tout se passe bien. Mais il y a un défaut qui est derrière, qui n'est pas visible. C'est ça notre thème aujourd'hui. Vice caché. Cet homme, apparemment, est correct. Il aime Dieu. La copie est bonne. Mais Jésus, qui est Dieu, va pointer ce qui ne va pas. Ce qui est caché. Vous savez, si Jésus lui avait dit, tu honores ton père, tu honores, tu ne fais, dis pas de faux témoignages, tu es correct, tu es, mais tu aimes ton argent plus que Dieu, il aurait dit, mais pourquoi tu me juges? Vous savez, souvent les gens sont comme ça. Hein? Quand tu dis à quelqu'un, mais oui, mais là tu as... Mais pourquoi tu me juges? Dieu seul connaît mon cœur. Mais vous voyez comment Jésus a eu cet homme? Jésus ne lui dit pas non. Tu aimes ton argent plus que Dieu, non? Il lui dit, écoute, c'est très bien ce que tu veux. Me suivre. Avoir la vie éternelle. Mais pour ce faire, vends ce que tu as. Que les richesses que tu as n'entrent pas en compétition avec ton amour pour Dieu. Quelle est la place que tu accordes à Dieu? Si Jésus lui avait dit, Dieu n'est pas à la première place, il aurait dit, comment ça? Moi, depuis que je suis jeune, je fais le bien. Depuis que je suis jeune, je respecte mes parents. Depuis que je suis jeune, je suis la loi. Je vais au temple. Mais Jésus ne l'a pas pris sur cet angle-là. Il dit, ok, d'accord. Ben, si tu veux me suivre, comme tu prétends être bon, alors, il y a une chose qui te manque. Vends tes biens, distribue aux pauvres et suis-moi. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Cet homme devint tout vice caché. Ce que j'ai écrit là, un vice caché, c'est une anomalie qu'on dissimule. Une anomalie qui n'est pas visible à l'œil nu. Un vice caché, ça peut être un mauvais penchant qu'on a. Bien-aimé, je nous parle en tant que chrétien, mais je parle à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Tu es chrétien, tu viens au culte, tu aimes le Seigneur, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a peut-être quelque chose, un mauvais penchant. Ça peut ne pas être un péché. Mais c'est quelque chose qui finira à la longue. C'est ça un vice caché, bien-aimé. Le véhicule, il fonctionne. Hein? Mais dans 2 ans, quand tu devras passer le contrôle technique, on te dira, non, ça ne passe pas. Ah, c'est là que tu vas te rendre compte que tu t'es fait avoir. Le véhicule fonctionne. Mais un jour, ce petit défaut-là va t'empêcher d'aller plus loin. C'est ça que Jésus est en train de dire à cet homme. Il y a un vice caché dans ta vie qui fait que même si tout est correct, plus ou moins, tu ne pourras pas aller plus loin. Lorsque Dieu va exiger plus, bien aimé, Dieu ne se contente pas de nous exiger 90. Dieu ne se contente pas de nous exiger 99. Non, Dieu, ce qu'il veut, c'est toute notre vie. Et cet homme, il est peut-être à 99,9. Et Jésus vient pointer du doigt le problème. C'est ça, bien aimé, notre exhortation aujourd'hui. Nous lisons Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. À partir du verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vient à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta tout seul avec la femme qui était là au milieu. Alors verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alors, des hommes viennent voir Jésus. On nous dit que c'était Jésus enseigné à la montagne des Oliviers. Alors ils viennent pour piéger le Seigneur. Ils disent, maître, cette femme que voici a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais la loi de Moïse, oh, tu sais combien nous sommes attachés à la loi de Moïse, et nous pensons que toi aussi, tu l'es. Tu es attaché à la loi de Moïse. La loi de Moïse nous exige de la tuer. Alors, Jésus s'abaisse. Il continue à écrire. Les gens disent, maître, mais on t'a adressé la parole. On t'a posé une question. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus ? Jésus lui dit, il n'y a pas de problème. Il leur dit, il n'y a pas de problème. Il dit, Moïse, dans la loi, ordonne de lapider, verset 5, de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur terre. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Bien-aimé, j'aime beaucoup cette scène-là. Il y a des dessins animés, il y a des films qui ont mis en scène j'aime beaucoup cette scène. Elle est tellement belle. Vous voyez, Jésus répond, il dit, ok, que celui de vous qui est sans péché commence à faire justice. Et il se baisse. Mais on ne va pas faire une étude là-dessus, hein. Pourquoi il se baisse ? Parce qu'il sait qu'en réalité, tous ceux qui sont là sont tous coupables. Ils ont tous des vices cachés. Ils paraissent corrects, bons. Mais vous savez ce que Jésus dit dans Matthieu 15, hein ? Les pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous savez, quand vous allez au cimetière, pour ceux qui ont déjà été au cimetière, il y a des bâtisses, hein ? Il y a parfois des belles bâtisses, des beaux bâtiments qui sont des mausolées, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui sont tellement beaux. Mais bien aimé, nous savons tous ce qu'il y a à l'intérieur. Mais de l'extérieur, c'est parfait. C'est parfois entretenu. Certains pourraient même s'asseoir dessus et manger tellement que c'est propre, pour certains. Mais nous savons tous ce qu'il y a à l'intérieur. Et ces hommes viennent voir Jésus pour dire, bon, cette femme a été attrapée et la loi nous exige d'éliminer cette femme. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Que celui qui est sans péché fasse justice. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit au verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent, bien aimés, ils se sont retirés sans demander leur reste. Vous savez, parfois, tu poses la question à quelqu'un, il te donne une réponse. C'est tellement clair que tu ne discutes même pas. C'est clair, c'est évident. En fait, vouloir discuter, c'est accuser encore. Donc ils se disent, bon, vaut mieux partir en catimini. En plus, comme il était baissé, peut-être que, bon, il ne va pas voir qu'on est parti. Mais bien aimé, vous voyez, accusé par leur conscience. C'est ça. Pourtant, ils paraissaient pour être des gens corrects. Des gens attachés à la loi de Moïse, puisqu'ils viennent dire à Jésus, la loi de Moïse nous exige. Donc ce sont des gens qui aiment la loi, qui aiment ce que Dieu dit. Mais la réalité, c'est que aucun d'eux n'était correct. Chacun avait un problème avec Dieu. Bien aimé, c'est ça que ça veut dire. Que celui qui n'a pas péché... Parce que, bien aimé, là, il ne s'agit pas d'avoir un problème avec un humain. C'est un problème avec Dieu. C'est ça. Donc, chacun qui vient accuser se souvient à hier, j'ai failli gifler ma femme. L'autre se souvient que il a peut-être escroqué quelqu'un au temple. On nous dit du plus âgé jusqu'au plus jeune. Ils se sont retirés parce que chacun avait quelque chose à se reprocher. Un vice caché. Vous savez, le vice caché, comme j'ai dit en introduction, il n'est pas toujours visible. Mais notre exhortation aujourd'hui, c'est ça notre premier point, c'est que Dieu sait ce qui est caché en nous. Mais non seulement Dieu le sait, Dieu vient pour nous le révéler. Vous voyez la bonté de Dieu? Non seulement Dieu sait ce qui est caché en nous, mais il nous le révèle. Pour l'objectif, c'est ça l'objectif de notre prédication aujourd'hui, bien-aimé. C'est, je donne déjà la fin, la conclusion, c'est Seigneur, délivre-moi. Beaucoup n'avancent pas au niveau attendu par Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons des choses cachées. Des fonctionnements. Pour certains, c'est un penchant aussi aisé, entre guillemets, à la colère. Voilà. Je suis chrétien, j'aime Dieu. Vous savez, tel que nous sommes ici, là, peut-être que nous n'avons pas affaire aux vraies personnes que nous sommes réellement. On ne sait pas, bien aimé. Ah, au culte, ah, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Parfois tu vois, ah, mais la soeur, elle est gentille, hein. Ah, le frère, il est vraiment, il a toujours le sourire. Bien aimé, ça, il faut poser la question aux gens qui sont à la maison. Il faut poser la question aux gens qui sont au travail. Eux, ils pourront témoigner. Parce que, bien aimé, c'est ça la réalité. C'est le politiquement correct. Il y a des gens qui sont calmes. Mais dans leur milieu naturel, peut-être qu'on ne dira pas la même chose. Vous savez, c'est ce qu'on nous dit souvent. Hein. C'est dans les vrais événements, dans les grands événements, qu'on reconnaît qui est réellement qui. Après, seul Dieu connaît le cœur. Mais vous savez, il y a des gens qui peuvent être au culte simple, mais mariage va reconnaître la personne. 4 tenues, 5 tenues. Est-ce qu'on a besoin de ça? Une fois, j'étais invité quelque part, je tombe sur une sœur, bien aimée, je ne l'ai pas reconnue. Elle me dit bonjour, mais avec joie, avec... Je n'ai pas reconnu la personne. Puisque le maquillage, je regardais, je dis mais c'est elle ou c'est pas elle? Mais vous savez, quand quelqu'un te salue avec joie dans la nuit, mais tu as envie aussi de mais en même temps, je dis, mais c'est qui? C'est après, dans la salle, dans la lumière. Je dis, oh, c'était elle. Je dis, ah ben dis donc. Pourtant, bien aimé, tu la vois au culte, le maquillage, il y en a peut-être, mais c'est un peu sobre. C'est bien aimé, c'est ça. Je dis, le vice caché, ça peut être un penchant qu'on a. Quelque chose qu'on aime, mais qui à un moment donné viendra. Peut-être que sur le coup, il n'y a pas d'impact. Mais plus tu vas avancer avec Dieu, comme cet homme riche, plus tu vas atteindre, entre guillemets, le plafond de verre. Alors il y a deux choix. Soit tu renonces à ta vie pour dire « Seigneur, c'est toi que j'ai choisi ». Ou alors, tu dis « Bon, moi, Dieu me demande trop, je m'arrête là ». C'est ça, bien-aimé. Et là, ces hommes qui viennent accuser la femme, chacun a un vice caché. Peut-être qu'un parmi eux se souvient qu'il a refusé de pardonner. Qu'il garde rancune. Vous savez, il y a des gens avec qui tu parles. Il est chrétien, hein? Il aime Dieu. Et quand tu parles de pardon dans le cœur, il va te dire, oui, mais il y a des gens qui m'ont fait tellement de mal. Mais bien aimé, ça constitue un vice caché qui un jour finira, si tu ne veux pas le traiter, à endommager toute ta vie chrétienne. C'est ça, bien aimé. Il y a des choses que nous avons. Les humains ne le voient pas. Toi, tu le sais. Vous voyez, on dit accusé par leur... Vous savez, Jésus aurait pu commencer à... Puisqu'il venait pour le piéger. Jésus aurait pu rendre coup pour coup. Ah, vous venez me piéger? Ok. Toi là-bas, hier tu as fait ceci. Toi, hier tu as fait cela. Toi, avant de venir. Mais Jésus aurait pu faire ça. Mais bien aimé, le but de Dieu, c'est pas d'humilier les gens. C'est pas le but de Dieu, c'est pas ça. Et d'ailleurs, même si tu as fait ça, est-ce que ça change les cœurs des gens? C'est pour ça que moi je ne suis pas toujours favorable avec des prophéties en public. Vous savez, les spectateurs aujourd'hui dans le milieu chrétien, il arrive, il dit, tiens, toi, hier, tu as fait... Bien aimé, le but de Dieu, ce n'est pas de faire du spectacle, d'exposer la vie des gens comme ça. Serait-il dans le péché? Ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de sauver. Si Dieu te révèle, dans ce cas, après le culte, tiens, le Seigneur m'a montré ceci, m'a montré... C'est plus constructif que d'afficher une personne comme ça devant tout le monde. Ça pourrait même avoir l'effet inverse. Vous avez déjà vu ça avec parfois les enfants. Tu lui dis, fais quelque chose. Bon, l'enfant résiste un peu. Tu l'humilies devant tout le monde. Ben là, je peux te dire que là, tu lui dis, lève-toi, il va plus se lever. Parce qu'il est vexé. Donc Jésus aurait pu faire le CV de chacun. Non. Il a lancé la parole, le Saint-Esprit a révélé à chacun qu'il avait un problème avec Dieu. Même s'il paraissait, parmi les gens, oui, allez, il faut la tuer, la loi, oui, la loi, nous sommes d'accord. Vous savez, il y a toujours des gens, des suiveurs. Jésus leur dit, il n'y a pas de problème, commencez, mais sachez que la justice de Dieu va s'appliquer aussi sur vous. Et là, elle sera implacable. Elle sera implacable. Et là, chacun se souvient qu'il a un problème, bien-aimé. L'autre se souvient qu'il aime accuser les autres. Ce n'est pas de ma faute, c'est toujours l'autre. C'est toujours un tel. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils sont toujours dans l'accusation. Si je suis comme ça, c'est à cause de mes parents. Si je suis comme ça, oh, c'est parce qu'en France, il y a du racisme. J'ai discuté avec un frère qui me dit qu'il est dans un pays étranger. Il me dit, ouais, mais dans le pays où je suis, moi je suis bac plus 7 ou je ne sais plus combien, mais je travaille toujours en tant que, vous savez, manutentionnaire dans les... Je dis, oui, mais vois les choses par rapport à Dieu. Oui, mais c'est parce qu'il y a du racisme ici, c'est parce qu'il y a de... Je dis, ça c'était le racisme. Le cœur de l'homme, il est mauvais partout. Même en Afrique, il y a du tribalisme. Ça, c'est partout. Même en Inde, il y a ce qu'on appelle les intouchables. C'est les gens de la basse classe. C'est comme le cœur de l'homme est comme ça. Vous savez, fut un temps à Paris, et même aujourd'hui, quand vous regardez les journaux, les grands médias, vous n'entendrez pas des gens qui ont l'accent du Sud, hein, puisqu'il y a une corporation, que, à part RMC bien sûr, qui est Monte Carlo du Sud, mais dans les grands médias, on se rappelle, M. Castex, Premier ministre, tout le monde se moquait de son accent. Donc, y a, c'est partout, c'est comme ça. Les Français se moquent des Belges, les Belges se moquent des Français. C'est comme ça, le cœur de l'homme est comme ça. Les Parisiens vont se moquer des ch'tis, des gens qui viennent du Nord. On se moque aussi de Normands, avec leurs expressions, c'est rien bon, c'est rien si. C'est comme ça. Le cœur de l'homme est comme ça. Alors il me dit, bon, comme il y a du racisme, moi je vais aller en Asie, je ne vais pas vous dire le pays. Il dit, bon, moi je vais aller chercher, tenter ma chance. Je dis, hé, alors là, là tu seras bien servi même. Mais bien aimé, c'est ça. Je lui ai dit, non, le problème, ce n'est pas que tu changes de pays. Le problème, c'est que tu acceptes que ta vie appartient à Dieu. Bien aimé, un vice caché, on l'a dit, c'est peut-être un péché. Nous sommes d'accord, mais ça peut être flagrant. Mais ça peut être le fait de tenir tellement à tes diplômes, travailler dans le domaine dans lequel tu as été qualifié, pour lequel tu as été qualifié. Mais imagine maintenant que Dieu te bloque, puisque Dieu veut que tu fasses autre chose. Tu vas te mettre maintenant à accuser les humains. Ouais, mais j'ai déposé mon CV là. Ouais, mais il n'y a rien qui m'a... Ouais, mais... Moi, j'ai dit au frère, mais peut-être que c'est Dieu qui a bloqué, puisqu'il veut que tu le serves. Je dis peut-être. Mais dans tous les cas, bien aimé, Dieu est tout puissant. La Bible nous dit dans Proverbe 21 que le cœur du roi est comme un fleuve. Dieu l'incline là où il veut. On a des témoignages des gens qui ont eu des boulots sans même CV, hein, sans envoyer le CV. On a juste parlé de lui. On appelle, on dit, tiens, allez, je vous embauche. C'est ça, bien aimé, la puissance de Dieu. Des vices cachés, ce sont des choses auxquelles on tient. Et qui vont constituer, à prime abord, on voit que la personne aime Dieu. Mais quand on l'entend parler, on se rend compte que, ah non, la personne tient tellement à ceci ou cela, bien aimé. C'est ça. Mais vous savez, Dieu, puisqu'il nous aime, il va révéler cela. Marc 82 nous dit qu'il n'y a rien de caché, qui ne doivent être révélés. Dieu va révéler. Ton problème, c'est que tu tiens trop à tes diplômes. Ton problème, c'est que ton travail est tout pour toi. Le vice caché, ça peut être un travail. On aime Dieu, mais à condition que je garde mon travail. À condition que j'ai mon salaire. D'ailleurs, si j'ai un bon salaire, je pourrais mieux servir Dieu. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de ton salaire pour que tu le serves. Dieu n'en a pas besoin. C'est pas toi qui vas aider Dieu. Le psaume nous dit, si j'avais faim, psaume 51, si j'avais faim, est-ce que je te le dirai? Dieu dit, les arbres, les bêtes des champs, toutes ces choses sont à qui? À moi. Et parfois, oui, mais c'est pour bénir Dieu. Bien aimé, Dieu sait au fond que c'est quelque chose à laquelle tu tiens énormément. Mais ça viendra se mettre en obstacle avec Dieu. Et là, ces pharisiens qui viennent accuser cette femme, on nous dit, accusés par leur conscience. Et le but de Jésus, c'est quoi? C'est que ces gens-là fassent la démarche auprès de Dieu en disant, bon, on a voulu lapider cette femme, mais on s'est souvenu que nous-mêmes, nous avons un problème. Nous lisons Luc 18, nous retournons dans Luc 18, Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. À partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, on nous présente deux hommes. Le premier est un pharisien qui, on nous dit, l'objectif de la parabole, hein, il dit encore, Jésus dit cette parabole, en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes. Donc ça veut dire que cette personne-là passe pour être juste, mais en réalité, ne l'est pas. Cette personne-là fait semblant. Vous savez, quand on était enfant, on faisait semblant de faire la cuisine. Tu joues avec des choses, tu fais semblant de conduire une voiture. Mais dans ta tête, pendant que tu t'as l'arrêt, mais pour toi, tu es déjà à la clinique Mathilde, tu passes le pont Mathilde. Donc, mais voilà, donc c'est des gens qui font semblant. Voilà le pharisien qui dit, bon, moi je suis correct, je fais ceci, je fais cela. Je ne suis pas adultère, je ne suis pas ceci. Je ne suis même pas comme ce publicain. Et le publicain à distance, on dit qu'il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il dit, Seigneur, sois apaisant envers moi qui suis un homme mauvais, pécheur. Et Jésus dit, qui a été justifié? Vous savez, quand on te met les deux personnes comme ça, en tant qu'humain, tu te dis, mais le plus correct, c'est le pharisien. C'est lui qui mérite d'aller au ciel. Mais bien aimé, ça c'est l'appréciation humaine. Malgré cette apparence, il avait un vice caché. C'est que, non seulement il est orgueilleux, mais il est mépris. Il est méprisant, il méprise les autres. Il méprise les autres. Vous savez, il y a des choses, bon là il le dit, il parle, mais il y a des choses parfois qu'on se dit dans le cœur. Les hommes ne le voient pas. Mais bien aimé, notre exhortation aujourd'hui, c'est dire, même ce que tu lis dans ton cœur, Dieu lui le voit. C'est ça. Tel qu'on est assis tous là, il y en a, il est peut-être assis, il regarde le monsieur qui parle avec ses lunettes, mais il y en a dans sa tête, lui, il est, bon, ce midi-là, le poulet, est-ce qu'il faut que je le mette à 180 ou 190? Est-ce que j'ai bien éteint la plaque? Est-ce que j'ai bien... il y en a tel que vous êtes assis, là. Mais apparemment, quand moi je regarde, je vois les gens, on ne connaît pas la réalité. Il y en a même... Oh, il parle beaucoup, en plus il parle fort, hein, il crie dans les oreilles. Mais je dis ça bien aimé pour dire que, en fait, nous, on regarde ce qui est visible, mais Dieu, lui, il va plus loin. C'est ça. Et voilà le pharisien qui se glorifie. Mais vous voyez, qu'est-ce que dit Matthieu 7? Pourquoi regardes-tu la paille qui est chez l'autre alors que tu as une poutre dans ton œil? Pourquoi, bien-aimé? Vous savez, c'est bien facile d'accuser les autres. C'est comme ça, c'est la tendance humaine. C'est bien plus facile de voir le problème de l'autre que d'être confronté à son propre problème. Bien-aimé, l'humain est ainsi fait. Peut-être qu'il n'y en a pas ici dans cette salle. On a atteint un niveau spirituel. Mais bien-aimé, l'humain est comme ça. On a toujours tendance... Ça commence avec Adam. Adam, où es-tu? Ah, je me suis caché. Pourquoi? Ah non, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Ah, moi, Je n'ai pas de problème. Mais c'est l'autre. Et c'est ça son problème. Et vous voyez l'autre, le pécheur, le publicain, il ne s'occupe même pas du pharisien. Il s'occupe de lui. Il dit, Seigneur, moi j'ai un problème. Je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de venir près de toi. Alors je m'attends à ta miséricorde, à ta grâce. Bien-aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. C'est deuxième point. On a dit le premier point, Dieu connaît notre véritable état. Et notre deuxième point, c'est que nous devons reconnaître cela aussi devant Dieu. Pour dire, Seigneur, en ce moment, je suis irritable. En ce moment, je perds patience. Vous savez, parfois on discute avec des gens qui viennent voir, tiens pasteur, prie pour moi parce que en ce moment j'ai beaucoup de colère, je ne comprends pas, je perds patience au travail, avec les enfants, avec mon mari, ou vice-versa, hein, parce que ça peut être aussi le mari, mais je perds beaucoup de patience. Mais vous savez, en discutant avec la personne, tu te rends compte que la colère n'est pas le problème. La colère est un symptôme, vous savez, c'est comme quand on a la fièvre. Hein. La fièvre, ça peut être un mal de dents, ça peut être une cheville cassée, ça peut être un orteil, c'est tout. Ça ne dit rien. D'ailleurs, tu vas prendre un Doliprane, ça va aller mieux, mais après ça va revenir puisque le mal est toujours là. Donc la fièvre vient te dire, il y a un problème. Et souvent quand on discute avec les personnes, ah Seigneur, pasteur, il faut prier pour chasser la colère parce que... Mais en discutant avec la personne, tu te rends compte que le problème de la personne, ce n'est pas la colère. La colère n'est qu'un symptôme. En réalité, le problème, c'est peut-être l'esprit de contrôle. C'est l'orgueil. J'ai décidé que c'est comme ça. L'autre vient et me dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Alors on se fâche. On discutait avec quelqu'un qui dit mais je prie, je prie, je prie, Dieu ne fait pas. Et la personne se met en colère après Dieu. Déjà d'une, peut-être que c'est même pas vrai que Dieu ne fait pas. Mais de deux, peut-être que tu as prié, tu ne vois pas encore parce que Dieu est en train de travailler. Vous savez, Marc 4, 26 nous dit que la plante, quand elle est semée, elle tombe en terre, on ne la voit plus. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'il n'y a rien qui se fait. Il y a un travail en dessous. Un mois après, tu reviendras, jeune pousse. C'est ça. Parfois, le problème, ce n'est pas la colère. Le problème, il est ailleurs. Et notre exhortation aujourd'hui, bien-aimé, c'est de prendre conscience. Tant qu'il y a un vice caché, nous serons bloqués. Vous savez, nous nous souvenons de l'histoire de Jacob. Hein. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob? Non? Ok, il n'y a pas de réaction. Alors, Jacob était... Fils de qui? Il y a eu, les gens commencent à se dire, bon, mais tu vas chercher dans la Bible, tu vas commencer où? Jacob était fils d'Isaac. Alors, nous savons tous que Jacob a, avec une magouille, avec sa mère, supplanté son frère. Vous le savez ça? Même si Dieu avait prévu de passer par lui pour pérenniser les promesses qui avaient été faites à son père, il a supplanté. Et vous vous souvenez, le jour où, lorsqu'il est sur la route, il combat avec Dieu, avec l'ange de l'Éternel. Et quelle est la question que l'ange pose à Jacob? Vous vous rappelez ou pas? Lecteur de la Bible. L'ange pose la question à Jacob. Quel est ton nom? Oui, j'ai entendu ça par là. Quel est ton nom? C'est curieux. Il s'appelle Jacob. L'ange lui demande, quel est ton nom? Alors, Jacob répond, je m'appelle Jacob. Et vous savez ce que veut dire Jacob? Ça veut dire quoi? Le supplanteur, l'usurpateur. Et l'ange lui dit quoi? À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles... Qu'est-ce que je suis en train de dire, bien-aimé? C'est que le nom qu'on porte peut être aussi lié à une mission et peut avoir un impact sur la vie qu'on a, comme le témoignage qu'on a eu de la sœur Marlène qui nous a donné le 31. C'est-à-dire le nom peut avoir aussi un impact sur la vie d'une personne. Et vous vous rendez compte que tant que Jacob était lié à cette identité de voleur, d'usurpateur, il serait limité dans sa relation avec Dieu. Il a fallu qu'il confesse, qu'il dise « Je suis un voleur » pour que Dieu lui dise « Voilà ». Bien-aimé, Dieu n'agira pas, ne te bénira pas pour ce que tu prétends être. Je ne sais pas si je suis clair. Pour que Dieu se manifeste à toi, te bénisse, il faut que tu sois vrai. Vous savez, quand tu vas chez le médecin, il te pose la question « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Tu dis au médecin « J'ai mal à la dent » alors que tu as mal au dos. Bah, le médecin, il n'est pas Dieu, hein. Il va regarder la bouche, il va voir. Mais ton problème est ailleurs. Donc lui, il va te donner des choses par rapport à ton problème de dents. Donc si tu veux être guéri, tu dois être prêt aussi à dire au médecin, « Docteur, j'ai mal au dos. » Mais ça veut dire aussi, tu dois être prêt à ce que le médecin dise, « Bon, enlevez la chemise, je vais regarder. » Je ne sais pas si on se comprend dans ce que je suis en train de dire. Bien aimé, c'est ça. Donc tant que Jacob vivait avec ce mensonge, ce vice caché là, il était limité. Et je pense qu'il n'était pas à l'aise lui-même non plus. La preuve, c'est que quand l'ange vient à sa rencontre, il est sur la route pour aller rencontrer son frère Ésaü pour faire la paix. Vous vous souvenez de ça? Il s'est dit non, là c'en est trop. J'ai trompé, j'ai menti, j'ai escroqué. Bon, encore ça se discute, mais l'intention quand même, c'était qu'il a manipulé son frère. Et quand il décide de réparer, c'est là qu'il entre pleinement dans les promesses que Dieu a faites pour lui. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu t'a fait des promesses, ce n'est pas parce que Dieu a donné des prophéties sur ta vie, que si tu as des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, ces choses-là s'accompliront toujours. Ça peut traîner. Tu peux être toi-même l'objet du fait que les choses ne s'accomplissent pas parce que tu ne veux pas te mettre en règle avec Dieu. C'est ça, bien-aimé, qui s'est passé dans la vie de Jacob. Et notre exhortation aujourd'hui, c'est reconnaître que j'ai un problème. Seigneur, je reconnais que j'aime avoir raison. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça. Hein. Ça peut être, bien-aimé, un vice caché. La volonté de toujours avoir raison. Mais tu vas arriver quelque part devant quelqu'un qui a des arguments, qui est plus affûté intellectuellement que toi. Et là, tu vas t'énerver, tu vas perdre tes moyens. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la réalité. Notre exhortation, c'est reconnaître qu'il y a un problème. Cette nouvelle année commence. Disons au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas pleinement dans ta volonté. Qu'est-ce qui constitue un obstacle? Peut-être que c'est juste la volonté de plaire. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas de problème. Hein. Comme on dit souvent de façon triviale. Ah oui, lui, il n'aime pas de problème. Hein. Mais vous savez, de telles personnes, ils ne prennent pas de position. Quand il y a un conflit, il est ni blanc, ni noir, comme ça, il est gris. Comme ça, on ne va pas l'accuser d'être avec un tel. Mais bien aimé, vous savez, la vie sera toujours faite de sorte que tu seras contraint de prendre une position. C'est ça. Et c'est ce que Jésus dit dans Apocalypse, il dit à cette église, « Puisque tu es tiède, je te vomirai. » Et parfois, la volonté de plaire, ça fait que, bon, on se fâche avec personne. Au moins, comme ça, j'ai pas de problème. Bien aimé, en fait, on dit que ce sont des gens qui n'aiment pas les problèmes. En réalité, ce sont des gens qui fuient les problèmes. C'est pas la même chose. Mais c'est pas parce que tu fuis le problème que le problème ne viendra pas à toi. Ah! C'est pas parce que... Vous savez, parfois au travail, tu fais rien de mal à personne, mais il y a quelqu'un qui... Ta tête ne lui revient pas. Toi, tu vas faire, comme on dit, le pas de côté tout le temps, mais lui, ta tête ne lui revient pas. Et encore moins quand tu souris. Pourtant, tu n'as rien fait. C'est comme ça. Peut-être que le vice caché, c'est bon, que tout le monde dise du bien. Ah, lui, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de formidable. Gloire à Dieu pour le témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Malheur à vous lorsque tout le monde dira... Bien-aimé, vous savez, être chrétien et que tout le monde, même les païens disent, ah, lui, il est bien. Il y a un problème. Puisqu'à un moment donné, en tant que chrétien, tu seras amené à prendre position. Surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Hein. Dernièrement, on était en réunion, on parlait d'un jeune. Et il y a psychologue ou la psychiatre qui dit « Oui, mais il est perturbé, ce jeune, parce que son frère jumeau, il a 17 ans, son frère jumeau, est devenu, il s'appelait Julien, il est devenu, je sais plus, enfin, il est devenu une femme. » Je dis « Ah bon, ça existe ici en Normandie, ça ?» Je pensais que c'était à Paris ou dans les bobos, là-bas. Il dit, c'est pour ça qu'il est perturbé, c'est pour ça qu'il est... Donc quand vous parlez avec lui, il faut lui dire qu'il a la liberté de quoi de... Donc son frère jumeau est devenu une fille, donc lui aussi... Mais, bien-aimé, vous voyez, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est ça. On va t'imposer... faut être tolérant, hein. Après tout, il faut vivre avec son temps, hein. Les gens font ce qu'ils veulent, hein, à partir du moment où ils s'aiment. Bien-aimé, c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Et à vouloir plaire à tout le monde, on va cacher parfois. Tu sais que tu as quelque chose à dire, mais tu te tais. Hey, on va me prendre pour un... Bien-aimé, un jour, tu devras prendre position. Mais le problème, c'est que si tu ne prends pas position pour Dieu, tu prendras position contre Dieu. Vous savez, en français, on dit qui dit mot à... Parfois, le chef dit, bon, on va faire comme si. Tu sais que c'est un mensonge. Et là, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu sais, tu es chrétien, tu sais que c'est un mensonge. Et le courage de dire, bon, moi, pour moi, il y a un problème. Ça, c'est pas vrai. Mais à vouloir plaire, être bien vu, bon, tu restes silencieux, tu dis rien. Comme ça, tu te fâches avec personne. Mais tu te fâches avec Dieu. Tu es accusé par ta conscience. Et même si tu n'as pas le courage de prendre position devant tout le monde, et le courage quand le chef... Chef, bon, on a parlé de ci, on a parlé de ça, bon, moi, voilà, bien-aimé. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. S'il y a des choses dans nos vies, ça peut être un péché, ça peut être le mensonge, ça peut être une double vie. On est quelqu'un d'autre. Là, on est avec des chrétiens, on est chrétien. Là, on n'est pas avec des chrétiens. Bon, on n'est pas chrétien. En même temps, pas trop avec eux, mais en même temps. Mais finalement, bien-aimé, l'eau tiède finira par devenir froide. C'est ça la réalité, bien-aimé. Et notre exhortation aujourd'hui, c'est de renoncer à tout ce qui est caché en nous. Tous les penchants, nous les connaissons, bien-aimés. Vous savez, Jésus n'a pas eu besoin d'expliquer beaucoup de choses à cette foule-là. Non. Il a dit que celui qui n'a pas péché, il n'a pas fait un cours. Oui, c'est quoi le péché? C'est quoi? Non! Les gens savaient eux-mêmes que moi, je suis là, mais j'ai des problèmes à régler. Les gens le savent. Donc nous tous, nous savons ce que nous avons à régler. Et notre exhortation est là pour nous dire, bien-aimés, 1 Jean 1:9 qui a été cité ce matin, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et son sang nous purifie de toute iniquité. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça la promesse du Seigneur. Alors qu'allons-nous faire? Continuer à dissimuler? À cacher? Continuer à garder? À se battre tout seul avec son problème, son péché? Donc de toute façon, personne ne voit, personne ne sait. Mais ça te détruit. Ça te fait du mal. Mais non seulement cela, c'est que tu es en procès, tu as un problème avec Dieu. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, il y a un verset hein, dans Luc 12 qui dit, où Jésus dit, « Lorsque tu es avec ton adversaire et que vous êtes en conflit, qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit, « Il vaut mieux pour toi t'arrêter en chemin, régler. » Vous savez comment on fait lorsqu'il y a des constats, lorsqu'il y a des accidents ? On fait le constat à l'amiable. Jésus dit, vaut mieux faire le constat à l'amiable avec ton ami, ton adversaire, puisque si vous allez chez le juge, ah, le juge ne fera pas de cadeau. Hein. Là où le constat à l'amiable, ça te revient à peut-être 300 euros, quand tu iras chez le juge, lui dira 3000 euros. Hein. Et ce n'est pas négociable. C'est ce que Jésus nous dit. Lorsque nous avons la possibilité d'arranger les choses à l'amiable, comme cet homme, le publicain, faisons-le, bien-aimé. Ne gardons pas les choses dans le cœur. On fait comme si tout va bien. En réalité, il y a des vices cachés. Ne gardons pas cela, bien-aimé, puisque de toutes les façons, ça finira par sortir. Mais le Seigneur nous dit, vaut mieux arranger ça aujourd'hui. Dire au Seigneur, Seigneur, voici mon problème. Voici mon problème. Mon problème, c'est que j'ai du mal à me soumettre. Vous savez, il y a des gens qui sont tout le temps en retard. Il est, quoi qu'il arrive, il est tout le temps en retard. Mais quand vous vérifiez bien, lorsqu'il doit prendre l'avion, lorsqu'il doit aller à un entretien d'embauche, là, il prend les dispositions. En réalité, le problème, ce n'est pas juste le retard. Le problème, c'est peut-être une légèreté apparente, mais qui montre le refus de se soumettre, de faire les choses comme j'ai envie. Le culte, c'est à 10h. Bon, moi, j'arrive à 9h55. Ouais, non, 9h, c'est pas en retard. Non, le culte à 10h, il y a l'intercession avant pour les équipiers. Il y en a, ils ne sont jamais là. Le problème, ce n'est pas le retard. Le problème, c'est le fait de se soumettre à ce que Dieu a établi. Et il y a des gens qui ne supportent pas ça, bien-aimés. Alors, on va dire, oui, mais il est léger. Oui, mais il faut prendre ses dispositions. Oui, mais le problème, il est ailleurs. C'est que lui, il a envie de faire comme il a décidé. Même si tu vas le chercher, tu vas attendre en bas encore 15 minutes. Puisque... C'est ça, bien-aimé. Mais toutes ces choses-là, ça constitue des freins dans notre marche avec Dieu. Et vous savez, Dieu révèle ça pour qu'on puisse prendre la décision, pour dire, comme Jacob, en disant, bon, je suis usurpateur. Je fais semblant. Depuis tout ce temps-là, j'ai fait semblant. Maintenant, je deviens Israël, père d'une multitude. Je rentre maintenant dans les promesses de Dieu. Et vous allez voir que quand il s'appelait Jacob, quelle vie il a eue. Puisqu'il s'est fait, l'escroc s'est fait escroquer aussi. Vous vous rappelez, par Laban. Pas qu'une fois. Hein. Une fois, deux fois, trois fois. Il a dû travailler de 7 ans, il a dû travailler 20 ans. Donc tu trouveras toujours plus fort que toi. Et le plus fort que nous tous, c'est qui ? C'est Jésus. C'est Dieu. tu penses avoir un coup d'avance, mais lui, il a déjà marqué le but avant que tu t'en rendes compte. Le but est déjà là. Mais le Seigneur nous parle aujourd'hui, bien-aimé. Y a-t-il des vices cachés? Des choses que tu ne montres pas aux autres, mais tu sais qu'elles sont là. Tu sais peut-être que tu n'es pas heureux, comme Dieu voudrait que tu sois heureux. Tu es triste. Quand on te voit, le grand sourire, mais vous savez, il y en a beaucoup, ils sont exubérants, mais tu apprends que mais moi, j'ai une collègue comme ça, elle me dit une fois, mais ça fait 5 ans que je suis sous antidépresseur, j'ai changé de traitement. Bien aimé, je peux vous dire que vous n'avez jamais vu quelqu'un de radieuse comme ça. Une professionnelle radieuse qui est tout. Mais elle me dit, oui, mais c'est, j'ai changé mon traitement, ça fait 5 ans que je suis sous antidépresseur. Je dis, ah, comme quoi l'apparence, hein? Dans l'équipe, c'est celle qui est la plus un peu folle, un peu de joie, qui chante. Mais 5 ans. Et là, tu dis ça, elle se met à pleurer. Tu dis, mais oui, c'est pas faux, en fait. Et il y en a beaucoup comme ça. En col blanc, tu apprends que bon, il s'est suicidé. Mais on n'a rien vu. Mais oui, mais bien aimé, c'est ça. Beaucoup vivent avec des vices cachés. Il présente bien, il a sa petite chemise, il a. Mais tu apprends le jour au lendemain, voilà, qu'il a fait quelque chose. Mais bien aimé, il a su peut-être entretenir ça jusqu'au jour où, malheureusement, au lieu de venir à Dieu pour dire, Seigneur, je n'en peux plus, il se donne la mort. C'est ça notre exhortation aujourd'hui, bien aimé. Est-ce que tu es heureux tel que tu es là? Est-ce que tout va bien? Si tel est le cas, gloire à Dieu, mais nous avons affaire à Jésus. Même si nous pensons que tout va bien, Jésus lui sait ce qui ne va pas. C'est ça notre prière. Nous allons prier, bien aimé, pour que le Seigneur nous délivre aujourd'hui. Que le Seigneur agisse dans sa grâce par son esprit et qu'il nous fasse la grâce d'être délivrés de tout ce qui peut constituer un vice caché dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu vois combien, Seigneur, nous sommes fragile. Seigneur, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 7, « Je sais ce qui est bien et je veux le faire. Mais je me rends compte qu'il y a aussi le mal qui est en moi. Parfois, je tente de le cacher. Mais il est là. Et lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. » Et l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps, le péché? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui nous rend victorieux sur le péché et la mort. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Révèle-nous tout ce qui est en nous qui constitue un obstacle. Délivre-nous de cela, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce, nous avons besoin de toi aujourd'hui. Seigneur, ce n'est pas une question d'humain, puisque nous pouvons, Seigneur, avoir l'intelligence de dissimuler les choses aux humains. Mais le psalmiste dit, « Où fuirais-je loin de ta face ? Même dans les eaux, tu es là. » Toi, tu nous connais, Seigneur. Et notre prière aujourd'hui, ce que tu nous délivres, même de ce que les gens ne peuvent pas voir. Agis par ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la délivrance. Merci pour la vie nouvelle que tu nous donnes. Merci pour ton pardon, ta miséricorde. Il est écrit, Seigneur, que si tu tenais compte de nos iniquités, qui pourrait subsister? Seigneur, nous avons besoin de ta grâce aujourd'hui. Agis par ton esprit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je laisse la place aux annonces.